Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Voici venu le mois d'octobre avec ses grandes discussions nationales. Au menu ce mois-ci, les questions énergétiques, raison pour laquelle à Terre à Terre, nous avons décidé de parler ce mois-ci du nucléaire. On commence ce matin par un petit tour en Afrique. Annie Camara, vous êtes malien, vous avez enseigné à l'université au Mali et en France, où vous résidez, vous êtes aujourd'hui à la retraite. Vous êtes toujours membre d'une association qui est basée au Mali, l'ARACF. Qu'est-ce que c'est, l'ARACF ?
L'ARACF est une association citoyenne. C'est l'association des ressortissants et des amis de la commune rurale de Faléa. Elle regroupe donc des hommes et des femmes, jeunes et vieux, dans divers secteurs de la vie sociale et économique, pour aider les populations de la commune rurale de Faléa à faire face à leurs soucis de tout genre, que ce soit la santé, la protection de leur environnement, les problèmes de travail, les problèmes d'éducation, etc. Et la commune rurale de Faléa n'est pas très connue, c'est un coin perdu du Mali. C'est une toute petite commune de 400 km² environ, située à l'extrême sud-ouest du pays, à ses frontières avec la Guinée au sud et le Sénégal à l'ouest et un peu au nord-ouest, qui regroupe quand même entre 17 000 et 20 000 habitants répartis entre 21 villages et hameaux. Et ce sont les femmes et les jeunes qui dominent la population. À cause de l'enclavement de la zone, c'est vraiment un coin difficile d'accès. Il n'y a pas de route goudronnée, les pistes praticables sont rares en toute saison. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'équipement moderne de communication, de transport. Il n'y a aucune personne qui possède une automobile, par exemple, pas de presse. C'est compliqué de circuler, d'aller à l'extérieur et de revenir, d'échanger véritablement avec l'extérieur. À Faléa, les populations vivent essentiellement de l'agriculture et de l'orpaillage traditionnel. En plus, il y a des activités de chasse, des activités artisanales, des petits élevages et de la transformation des produits locaux, tels que le karité, l'arachide pour produire de l'huile, du savon, et puis le coton traditionnel, qui est filé par les femmes et tissé par nos tisserands. Très doués quand même pour faire des tissus jolis, magnifiques. Et puis la teinture des tissus, des bandes de cotonnade à l'indigo. Bon, il y a un artisanat mais qui n'est pas boosté par des marchés locaux ou régionaux, et puisque les possibilités de circulation et d'exportation sont très limitées.
Alors on va revenir maintenant sur cette association, Mani Camara, et sur tout ce que vous avez accompli. Elle existe depuis un moment.
Elle a été créée en 2002 dans ce créneau traditionnel de solidarité en direction des parents, pour leur apporter de l'approvisionnement en médicaments, des apports financiers autant que possible pour régler leurs problèmes d'accès aux soins de santé, aux médicaments. Et voilà, on était dans ces créneaux-là jusqu'à la fin des années 2000. À partir de 2007, le gouvernement malien a accorder des autorisations d'exploration et de prospection à des sociétés minières en vue de l'implantation de projets d'extraction minière industrielle dans la commune de Faléa. Car il faut savoir que la commune de Faléa, en dépit de son éloignement et de son enclavement, est dotée de grandes richesses minières, notamment l'or, la bauxite, le diamant, l'uranium, etc. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'association a dû s'impliquer aussi sur ces volets, étant donné que l'extraction minière a des implications sur la santé des populations, sur leur environnement et aussi sur leurs droits, c'est-à-dire les projets miniers qui se mettent en place. Ça prend des surfaces de terre, ça réalise des ouvrages auprès des sources d'approvisionnement en eau des populations ou de leurs habitants. Et puis ça a des effets aussi sur les espèces animales, végétales, donc sur la faune et la flore.
Ça pourrait être source de richesse aussi pour la population.
Oui, ça c'est l'expérience de nos pays. Suggère plutôt que les résultats de ces projets miniers sont plutôt mitigés. Parce que le Mali est par ailleurs un grand pays minier. Et dans d'autres régions du Mali, l'exploitation industrielle de l'or est en cours depuis le début des années 1990. Et on a constaté qu'en réalité, les retombées économiques et financières sur les populations sont très, très, très limitées. Et donc, tirant les leçons de cette expérience, l'association a pensé utile de se mobiliser et d'aller chercher l'information pour que les populations puissent bien comprendre ce qui va leur arriver.
Chercher l'information, c'est-à-dire ?
Il faut chercher l'information parce que là aussi, il y a un problème. Le contexte d'exploitation des ressources minières dans notre pays se fait de façon, on peut dire, occulte. C'est-à-dire l'État, à travers ses services chargés du dossier minier, passe des contrats avec les sociétés minières qui arrivent, mais ces contrats ne sont pas du tout publiés et ne sont pas accessibles ni aux élus, ni aux administrations locales, aux structures de développement sur place, ni à la presse, ni aux organisations citoyennes, aux associations, encore moins aux populations. Donc on voit un jour débarquer des étrangers avec des engins géants sur le terrain, dans des champs agricoles, et qui prennent place parce qu'ils ont des titres miniers, donc des actes officiels et réguliers de l'État et qui n'ont besoin de s'adresser à personne. Ils ne sont même pas obligés de parler à qui que ce soit, ni au maire et au conseil municipal sur place, ni aux représentants de l'administration, le sous-préfet, puisque le permis délimité qui leur est concédé par l'État est considéré comme leur propre propriété. Or, il se trouve qu'à l'intérieur de ces permis, ce sont des gens qui vivent et qui produisent, qui s'organisent, qui mènent leur vie sociale et leurs activités culturelles. Donc ça pose énormément de problèmes. Et tous les documents, contrats et autres, sont rédigés en langue étrangère.
Quelle langue ?
En langue française et en langue anglaise. Or, sur le plan général du Mali, déjà, on a moins de 10 à 15% de la population qui maîtrise le français, langue de l'ancienne puissance colonisatrice. Et l'anglais, c'est moins de 2%. Et dans les régions rurales, c'est extrêmement marginal. Donc, c'est véritablement un saut dans l'inconnu face à une dynamique de bouleversement majeur qui arrive dans ces genres de régions reculées.
Ce que vous décrivez là, Mani Camara, c'est ce qui est arrivé à Faléa ou ce qui risque d'arriver à Faléa?
Ben, c'est ce qui est arrivé à Faléa, précisément. Justement, le gouvernement malien a accordé des autorisations d'exploration et de prospection à deux sociétés canadiennes. L'une en 2007, Delta Exploration, qui a été relayée à partir de 2009 par Rugged Capital Corp, donc pour faire des prospections et des sondages miniers.
Donc vous les avez vus arriver dans le village?
Oui, on les a vus arriver dans le village. Quand ils sont arrivés, ils se sont simplement installés dans le village. Ils ont construit un camp ultra-moderne avec des équipements, un camp bien électrifié.
Eux, ils ont l'électricité.
Ils ont l'électricité et le reste du village est plongé dans l'obscurité la nuit. Alors que le camp, c'est carrément à New York, en pleine brousse africaine, avec une parabole. Ils ont le satellite, ils ont accès donc à tout ce qu'il y a de moderne. Et ils ont tracé une piste d'atterrissage d'un avion d'un kilomètre et demi de longueur et qui passe à proximité de l'école, du centre de santé. Donc, désenclavement total.
Désenclavement brutal même.
Ah ben oui, brutal. Brutal et ça représente véritablement même une menace, des risques physiques pour la population. Par le passé d'ailleurs, parce qu'avant l'arrivée des sociétés canadiennes, dans les années 70, il y a eu une première phase de sondage par la COGEMA. La COGEMA, c'est l'ancien nom de Areva. Et donc c'est précisément cette compagnie en coopération avec les services des mines du Mali qui a découvert les premiers indices de l'unarium à Faléa. C'est la COGEMA qui avait déjà fait un petit bout de piste pour pouvoir faire le transport de l'approvisionnement, mais aussi le transfert des échantillons de roches contenant de l'uranium. Et donc, à la fin des années 70, début des années 80, il y avait eu déjà deux accidents. Un premier accident sur la piste d'atterrissage et le deuxième accident.
Quel type d'accident?
L'appareil, l'avion s'est écrasé sur la piste. Et donc, heureusement, là, il n'y a pas eu de dégâts. Et le deuxième accident, l'avion ayant eu des problèmes techniques, est tombé sur l'école. Heureusement, la nature a doté la région de grands arbres. Nous avons de gros fromagers, des baobabs. Et l'avion de la COGEMA s'est donc accroché aux branches de ces gros fromagers de l'école. Et donc, cela a permis d'éviter qu'il tombe sur les enfants qui étaient dans la cour et dans les classes. Mais la COGEMA avait décidé de déplacer la piste 3 km plus loin. Et ben, en fait, le projet n'a pas continué parce que, compte tenu du contexte géologique et puis topographique, c'est une région montagneuse. Et de la situation des cours des prix de l'uranium sur le marché à l'époque, c'était pas intéressant de l'exploiter à cette époque-là. Et donc la COGEMA est partie ailleurs, dans un pays voisin qui est le Niger, et puis aussi plus loin au Gabon et dans d'autres pays africains.
En vous laissant, une excellente liaison aérienne, Faléa, Roissy.
Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. n'y a aucune balise, il n'y a pas de périmètre de protection de cette piste.
Et c'est entièrement ouvert ?
C'est entièrement ouvert.
C'est-à-dire qu'on peut traverser la piste ?
Oui, les populations traversent tous les jours, les animaux. Les... Il n'y a aucun ouvrage de protection et il n'y a aucun équipement d'intervention de secours, genre petit véhicule incendie pour intervenir. Et quand les avions atterrissent, il n'y a aucun système de signal pour avertir la population. C'est quand on voit arriver l'avion, on entend le bruit, que les gens essaient de se mettre à l'abri. Sans compter les nuisances sonores sur les habitations. Et il faut dire aussi que le village, est, du point de vue architectural, est bâti à 99%, parce que, en matériaux locaux, c'est-à-dire le banco, mais surtout le bambou et la paille. Donc des matières inflammables qui, en cas d'incendie, vraiment, c'est des dégâts énormes sur les biens et sur la vie des populations qui risquent de se produire à ce moment.
Donc, pour résumer, Mani Camara, il y a une première piste qui avait été créée par Kojema dans les années 70. Elle a été abandonnée. Donc j'imagine qu'elle a dû retourner à l'état de simple chemin tracé dans le village. Et puis voilà qu'au début des années 2000, enfin vers 2007, le gouvernement redonne des concessions d'exploration, en tout cas, à deux compagnies canadiennes. Et donc là, le balai des avions, le balai aérien reprend.
Oui, le balai aérien reprend. Mais il faut préciser que c'est justement l'ancienne piste, bout de piste, qui a été prolongé par la nouvelle compagnie. Et c'est un balai effectivement incessant. Cette piste est vraiment utilisée pour faire venir l'équipe technique de la société minière, les approvisionnements en nourriture, en eau potable, en eau minérale.
Pour la population locale ?
Non, pas du tout. Vous pensez, c'est pour l'équipe de direction de la société, même pas pour les travailleurs locaux ou africains qui sont employés par la compagnie, la société minière. Non, mais c'est pour la direction de la société minière. Et il y a aussi les transports réguliers des échantillons qu'on appelle des carottes d'uranium pour des analyses, une partie en laboratoire à Bamako, une autre partie dans des laboratoires en Afrique du Sud et à Ottawa au Canada.
Mais ça demande des mesures particulières de protection.
Alors, en matière de protection, alors là, on peut dire que c'est le désert complet parce que les services techniques maliens chargés justement de protéger la santé des populations et l'environnement ne sont pas du tout outillés pour le faire. Quand l'association s'est impliquée dans les dossiers, elle s'est rendue compte que la plupart de nos services techniques ne connaissaient même pas le site. Figurez-vous, en 2010, quasiment aucun service technique malien de l'environnement, de l'agence de radioprotection, service des eaux et des forêts, ne s'était rendu à Faléa, alors que les activités d'exploration étaient en cours depuis 2007. Et donc, il y a l'ignorance, il y a le manque d'équipement, de compétences. Au Mali, on n'a pas de spécialistes en extraction de l'uranium et en radioactivité. Et il n'y a aucun spécialiste d'équipement nucléaire.
Mais vous dites, Mani Camara, que des emplois ont été créés. Est-ce que vous avez le sentiment que les travailleurs sont exposés, que la population, plus largement, est exposée à quelque chose dans cette première phase de travaux ?
Oui, parce que la société minière emploie localement quelques jeunes. Une dizaine de familles sont concernées Et les salaires versés sont relativement très importants par rapport au niveau de vie local. Mais les conditions d'emploi sont catastrophiques. D'abord, du point de vue juridique, il n'y a pas de contrat régulier, c'est de l'emploi saisonnier, très précaire. Les jeunes peuvent être renvoyés à tout moment, donc c'est au besoin, on peut dire même au caprice de la société, et ils n'ont aucune protection juridique de leurs droits. Et sur le terrain, ils travaillent sans protection. Les mains nues, et puis bon, pas de casque parce qu'ils ne sont même pas au courant que la radioactivité existe et que c'est vraiment dangereux à terme pour la santé. Et comme nos services techniques ne viennent pas là et n'ont même pas les équipements nécessaires pour aussi se rendre compte, même pas un petit compteur CGR pour mesurer la radioactivité. Aucun service technique malien n'a ça, ni le service des mines, ni le service de l'environnement, ni même l'agence malienne de radioprotection. Bon, il y a des efforts en cours pour former les gens, pour s'équiper, mais jusqu'ici, ça ne s'était pas fait. Donc, on est au courant de rien. Et donc, les activités sur le terrain arrivent à souiller les eaux, les points d'approvisionnement en eau des populations, des anciens puits, des marigots où les femmes approvisionnent les familles au quotidien. Mais on ne sait pas, on n'est pas au courant. Et donc ça aussi c'est un problème qui a beaucoup préoccupé notre association. Et nous avons dû solliciter l'expertise scientifique étrangère pour nous aider à évaluer tout ça et à informer et les populations et surtout les services techniques et les décideurs maliens.
Mais alors justement, Mani Camara, comment est-ce que votre association s'y est prise ? Parce que la situation que vous décrivez est assez terrible, à la fois effectivement une situation très inquiétante et grave et en même temps un silence et une ignorance qui pèse sur tous les aspects de ce que vous décrivez. Donc comment est-ce que vous, au sein de la RACF, vous avez réussi petit à petit à construire une forme d'expertise, à comprendre? Vous disiez, on ne sait pas ce que c'est que la radioactivité, vous visiblement, vous le savez aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on arrive d'abord, dans un premier temps, à s'informer soi-même, et puis ensuite vous nous expliquerez comment vous arrivez à transmettre l'information?
La petite histoire, petite entre guillemets, qu'il faut savoir, c'est que un jour, chez moi, à Angers, où j'habite depuis quelques années, avec Hannes Lamler, président du Forum civique européen, section suisse, qui est un ami de longue date, puisqu'on s'est connus au début des années 90, c'est précisément 1992, à la faveur de l'avènement de la démocratie au Mali. J'étais impliqué dans le mouvement démocratique en lutte contre la dictature et en mars 1991, nous avons réussi à renverser la dictature et à ouvrir un espace démocratique. Et nous sommes impliqués tout de suite dans la mise en place de radio associative, dans la libération des ondes pour donner la parole aux populations, pour qu'elles puissent s'exprimer sur toutes les affaires qui les concernent, interpeller les autorités, dénoncer les abus administratifs, etc. S'organiser, se mobiliser grâce à ces genres d'outils. Et aussi, c'était des instruments pour informer sur les problèmes de l'immigration. La répression de l'immigration, c'est l'époque des charters du ministre Pasqua en direction du Mali. Et donc c'est dans ce cadre-là que le Forum civique européen, Radio Zinzine, Longomai, soutenu ces genres d'initiatives démocratiques dans nos pays. Donc on s'était connus depuis cette époque-là. Et donc, il était en visite chez moi avec Noum Keita, journaliste avec qui nous avons créé le réseau Kaira à Bamako.
Le réseau Kaira, c'est le réseau de la radio ?
C'est le réseau de radio que nous avons mis en place. À partir de Bamako, nous avons développé une petite chaîne de radio grâce au soutien de la FERL, la Fédération Européenne des Radios Libres. Et donc, j'étais en train de visiter le site du Internet du Mali, MaliWeb, et puis paf, j'ai vu que le gouvernement malien avait de nouveau donné des titres miniers à des sociétés canadiennes pour explorer et prospecter l'uranium dans la commune de Faléa. Faléa, entre nous, c'est ma région natale, c'est ma commune natale. Et le journaliste Noum Keita est mon neveu, c'est le fils de ma sœur. Alors, étant en Europe, quand même, on ne peut pas ignorer Hiroshima, Nagasaki, et l'accident de Tchernobyl, et la radioactivité, c'est quand même quelque chose. On s'est dit, oulala, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, nous nous sommes levés pour aller voir des scientifiques. C'est comme ça que nous avons approché le laboratoire associatif La CRIRAD, indépendant de La CRIRAD à Valence. Ce laboratoire nucléaire nous a conseillé de chercher un petit financement pour acquérir des petits appareils de mesure, les compteurs GGR pour mesurer la radioactivité, un scintillomètre, et d'aller sur le terrain pour former des acteurs locaux afin de pouvoir constater l'existence de la radioactivité et réaliser un état des lieux au départ. Ils appellent ça techniquement un point zéro radiologique, savoir au point de départ quel était le niveau de la radioactivité naturelle.
C'est-à-dire avant l'exploitation ?
Avant l'exploitation, donc, pour permettre d'évaluer donc, la dose de radioactivité ajoutée par l'activité d'exploitation par la société minière. Parce qu'en général, les compagnies minières nient toute dégradation de l'environnement par une augmentation de la radioactivité. Ils ont toujours prétendu que c'est...
que c'était déjà là.
Voilà, c'était déjà là et que bon, tout est normal. Et donc c'est une première, cette initiative est une première. La ville de Genève a accepté de soutenir financièrement cette petite initiative, donc sous l'assistance scientifique de la CRIRAD de Valence.
Qui s'est déplacée également sur le terrain.
Qui est venue sur le terrain pour produire un rapport qui va être déposé auprès de la ville de Genève, qui en sera donc la gardienne de ces résultats et puis témoin international de cette situation de départ pour le cas où, malgré tout, l'exploitation serait décidée par le gouvernement malien et qu'on puisse avoir des repères et une base d'exigence pour amener la société minière aux réparations ou aux ajustements nécessaires par rapport à la dégradation de l'environnement et aux autres effets, aux autres impacts sur la santé, sur la population.
Annie Camara, dans le même temps, est-ce que vous continuez, enfin, ou est-ce que vous essayez d'empêcher que cette exploitation ait lieu ? Ou bien est-ce que vous y êtes résigné d'entrée de jeu ?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, nous sommes fermement décidés à empêcher la réalisation de ces projets. D'une part, l'État malien s'est engagé dans ces dossiers sans y être préparé, du point de vue technique, en termes de savoir-faire, de compétences, mais aussi, j'ai oublié de dire, le cadre juridique même, les instruments juridiques même ne sont pas là. Le code minier malien comporte de grosses lacunes. Par exemple, elle ne prévoit aucune exigence en matière de précaution, de protection de l'environnement, des populations, de leur santé, en phase d'exploration et de prospection. Et dans le code minier, l'uranium est considéré comme n'importe quel minerai, comme l'or, comme les autres. Donc, il n'y a aucune disposition spécifique pour l'uranium. Et il n'y a pas de code de l'uranium à part. Et donc, dans cette phase-là, les compagnies ne sont pas tenues, puisqu'elles n'ont aucune responsabilité environnementale et sociale, ne sont pas tenues de prendre les précautions. C'est ce qui explique qu'il n'y a pas de périmètre de sécurité pour la piste d'atterrissage, mais aussi pour les forages qui sont réalisés. Il n'y a aucune barrière autour pour empêcher l'accès aux animaux, aux populations. D'ailleurs, il y a des animaux qui meurent parce que s'abreuvent à ces points d'eau contenant des produits chimiques. Alors, pour comprendre ça, il faut voir que les sociétés minières utilisent des foreuses. C'est de grosses machines qui utilisent de grosses quantités d'eau, d'ailleurs prélevées sur les sources locales existantes, les points d'eau de la commune, avec des produits chimiques pour faire les forages et aller chercher très loin en profondeur, entre 125 et 350, voire 400 mètres en profondeur. Et à Faléa, la nappe phréatique est entre 2 et 5 mètres. Donc, ils vont chercher jusqu'à cette profondeur les échantillons de roches contenant de l'uranium. Donc, avec le risque évident de traverser la nappe phréatique, donc de contaminer les eaux souterraines. Et en sortant, les baudruches de ces machines-là rejettent de l'eau chimique et des boues.
À même le sol,
voilà. Et comme ça a été réalisé aussi en amont, c'est-à-dire en pente sur un bassin versant, alors il y a eu un écoulement de boue et de ces eaux souillées dans un puits utilisé depuis des siècles par les populations autour. C'était un hameau de culture qui regroupe environ un millier d'habitants tout autour. On s'approvisionnait là depuis au moins un siècle et ce puits a été perdu. La compagnie a tenté de creuser un autre puits à côté, mais cet autre puits ne donne pas d'eau. Alors, avec l'association et les populations, la commune, il y a eu des vives protestations et la société Rogate a amené une citerne pour ravitailler les populations. Mais sauf que les activités de forage, là, elles sont saisonnières. C'est pour quelques mois de l'année, pendant les grosses saisons des pluies, la compagnie arrête les activités et s'en va. Et pour ces périodes-là, les populations n'ont pas d'eau potable. Il faut aller faire 6, 7, 10 kilomètres pour les femmes pour trouver l'eau à peu près potable dans les cours d'eau ou revenir dans le village central de Faléa où on a 3 ou 4 pompes hydrauliques afin de pouvoir trouver de l'eau consommable.
On ne sait plus où donner de la tête quand on vous écoute, Mani Camara. Je m'apprêtais à vous demander où vous aviez trouvé une assistance sur les questions juridiques, puisque vous avez évoqué le code minier malien qui, avec ses graves lacunes. Mais vous avez également besoin d'assistance, d'informations, de conseils sur le plan médical, sanitaire. Et puis surtout, quand je vous écoute, je me demande comment est-ce que vous pouvez intervenir et auprès de qui pour faire cesser cette situation.
Bon, il faut dire quand même que la loi et la réglementation malienne prévoit une petite fenêtre démocratique, c'est-à-dire qu'au bout du processus, avant d'octroyer le permis d'exploitation proprement dite, il est prévu une consultation publique sur la base du rapport de l'étude d'impact environnemental et social que la société minière candidate à l'exploitation doit réaliser. Elle recrute un bureau d'études ou un consultant pour faire cette étude et la fait approuver par le service de l'environnement, un service technique qui accepte cette étude. Et donc, c'est avec ces rapports, on se transporte sur les sites de l'exploitation, donc à Faléa, pour, en ce moment-là seulement, demander l'avis de la population, demander à la population si elle adhère au projet. En miroitant, bien entendu, les avantages supposés que le projet est censé apporter à la population, c'est-à-dire du travail avec pour les jeunes avec des revenus très élevés, le désenclavement, on va construire des routes, on va faire des écoles, des structures de santé, l'eau potable. Bref, on va promettre la lune aux populations. Et donc là, les autorités coutumières, chefs de village, conseillers, les représentants des fonds, on va les convoquer pour les faire approuver et signer un procès verbal comme quoi tout le monde est d'accord pour que le projet se réalise. Donc c'est vraiment l'enjeu majeur, cette confrontation publique où on demande l'avis enfin des populations, ce processus démocratique qu'il faut absolument mettre à profit.
D'où l'importance d'informer, et voire de former la population.
Oui, voilà. Et donc, j'avais parlé de notre première action préventive, qui est la formation, la mesure, la surveillance de la radioactivité par une équipe locale. Et la deuxième action a consisté en la mise en place d'une radio communautaire. Et nous avons réussi à mettre une radio très performante pour informer la population sur un rayon de 50 km de la commune en langue locale. Il y a 4 langues locales parlées par les populations résidentes. Et nous diffusons à travers cette radio l'information sur l'uranium et la radioactivité, sur le cadre légal, sur la réglementation, sur les droits en général et les moyens juridiques dont disposent les populations pour se défendre. Et aussi, les populations, évidemment, utilisent cette radio aussi pour s'exprimer, pour communiquer entre elles, et puis exprimer leur avis et signaler les problèmes qu'elle rencontre avec le développement de ses activités d'exploration et de prospection.
Moi, en tant que directeur, je suis très content. La population aussi, elle est très contente de l'arrivée de cette radio. Donc, cette radio nous permettra de donner des informations sur la radioactivité. Nous sommes prêts à informer toute la population. On remercie l'association RSF qui nous a offert cette radio communautaire et tous les partenaires et les amis qui ont combattu pour enlever la commune dans l'obscurité.
Vous avez une idée de l'efficacité d'une radio telle que celle-ci, Mani Camara, dans ce contexte que vous nous avez décrit, extrêmement reculé, enclavé? Comment est-ce que les gens sont avertis que la radio existe? Est-ce qu'ils l'écoutent? Est-ce qu'ils réagissent?
Ah oui, la radio a toujours du succès dans le contexte socioculturel de nos pays, qui sont des contextes de communication orale. Et c'est toujours un engouement quand on met une radio en place, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Depuis les indépendances, les années 60, dans les coins les plus reculés, les gens sont branchés sur les radios nationales, les radios locales. Et le paysan, dans son champ, l'éleveur, il a toujours son petit poste transistor. Et donc ça, c'est au contraire une aubaine pour les populations. Et en plus, si c'est une radio émet dans la langue parlée par les populations, alors ça provoque véritablement un enthousiasme. Et donc, pour l'impact, ça, c'est visible. On a vu immédiatement parce que les gens font attention à l'eau qu'ils consomment. Donc, s'il y a une machine qui arrive près d'un marigot, d'une rivière où habituellement on s'approvisionne pour faire les repas domestiques, les populations résistent, protestent, et quand les champs sont aussi menacés, leurs champs sont menacés, elles protestent également, parce que elles ont compris que ce n'est pas normal, qu'on n'a pas le droit de venir sans informer, sans prévenir. Les gens ne sont jamais au courant, même des programmes d'activité, d'exploration et de prospection. Les forages, on ne sait pas quand ça va se faire. Comment, quelle saison, un paysan ne peut pas planifier ses activités agricoles. Il n'est jamais assuré qu'il pourra disposer de son champ pendant une campagne agricole. Donc, c'est difficile pour lui de choisir s'il va continuer à cultiver ses champs ou aller ouvrir un nouveau champ pour éviter les risques de pollution, de contamination ou simplement de blocage de ses terres.
Et donc, votre radio informe les gens du calendrier ?
On n'a pas de calendrier. Alors là, la société minière n'a vraiment rien à cirer de tout ça, parce que les gens qui existent là ne sont pas dans sa logique, ne sont des insectes ou des bêtes, peut-être, mais pas des êtres humains qui ont des droits. Et donc, les gens protestent. Et puis, on a mis en place un petit bureau de doléances avec une petite équipe, avec des cahiers, un appareil photo, un dictaphone pour enregistrer. Alors, quand il y a des cas de litige, ils se rendent sur place pour constater, interroger et instruire, consigner dans un petit cahier d'écolier, ramener ça à la mairie, à la radio, on informe, et puis remonter à l'association, qui s'adresse donc à des juristes pour prendre conseil, des avocats. Et puis donc, on fait des démarches, on va voir les responsables des services des mines, on va voir l'environnement, on va voir les services des eaux pour signaler, mettre la pression. On va voir même aussi nos élus à l'Assemblée nationale. Il nous est arrivé d'obtenir de la commission des mines de l'Assemblée nationale du Mali de lever une mission d'information à Faléa. Ça n'a pas donné grand-chose parce que les députés sont arrivés sur place et sont plutôt allés se faire héberger par la compagnie minière dans son camp luxueux, dans des chambres climatisées. Donc, t'es bien nourri, bien lavé, etc. Avant de voir la population, donc qui les a évidemment éjectés parce que surtout, nos députés ont refusé de se rendre sur le terrain pour constater les dégâts, sous prétexte qu'elle n'avait aucune compétence technique. Donc quand même, il y a un éveil de conscience et une mobilisation. C'est ainsi que nous sommes allés, nous avons dépassé l'échelle de la commune pour aller à l'échelle de notre circonscription administrative. On appelle ça au Mali le cercle. Faléa fait partie avec 11 autres communes du département de Kenyaba. Nous appelons ça le cercle de Kenyaba. Donc nous avons organisé des sessions d'information et de formation des élus à l'échelle du cercle de Kenyaba. Alors quand les élus, donc l'ensemble des maires des 12 communes du cercle de Kenyaba ont compris tous les dangers que représente une mine d'uranium, ils ont décidé de faire un mémorandum officiel, une déclaration au gouvernement malien, écrite et signée par chacun des maires pour exiger l'interdiction de la mine d'uranium dans la commune de Faléa et dans tout le cercle de Kenyaba.
Il y a eu une réaction du gouvernement ?
Il n'y a pas eu de réaction du gouvernement. Ce mémorandum a été officiellement déposé. Et en mars dernier, 2012, du 16 au 18 mars, nous avons donc organisé à Bamako une conférence internationale sur le thème uranium, environnement et santé. Et nous avons invité le gouvernement malien, donc à travers le ministère des Mines et les autres services techniques, l'ensemble des services techniques, les chercheurs, l'université malienne, les acteurs de la société civile, des acteurs des autres pays miniers africains, Niger, Gabon, Afrique du Sud, Congo, Namibie, Tanzanie, etc. Et des experts de divers continents, allemands, américains, indiens, français, pour un forum de discussion à Bamako, avec la participation d'une trentaine de représentants des 21 villages et hameaux de la commune de Faléa et les élus du cercle de Kenyaba. Donc, pour mettre à plat le dossier de projet de mine d'uranium à Faléa.
Je dois dire, c'est assez impressionnant, effectivement, Mani Camara, tout ce que vous avez accompli. Donc aujourd'hui, l'exploration préliminaire est toujours en cours. Il n'y a pas encore de demande de dépôt de permis d'exploitation. Donc comment est-ce que vous envisagez la suite ? Qu'est-ce que l'ARACF a encore dans sa manche pour la suite des événements ?
Bon, nous comptons intensifier effectivement la préparation de la consultation publique. Mais nous comptons aussi mettre en place d'autres actions. La recherche d'alternatives qui permettent en même temps de protéger l'environnement. Et surtout, dans l'immédiat, nous allons lancer un appel aux municipalités de par le monde pour un partenariat international afin d'appuyer ce processus de préparation de la consultation publique afin qu'elle puisse aboutir. Donc les populations de Faléa et leurs élus comptent organiser une votation populaire sur la base d'un recensement systématique et de l'organisation d'un vote où chaque habitant aurait sa voix afin d'avoir une position commune avant la date de la consultation publique. Voilà, ça servira à aider les populations et leurs élus dans l'organisation de ce vote démocratique et à garantir le respect de la démocratie face au projet de mine d'uranium. Donc c'est vraiment notre activité, notre projet phare dans l'immédiat. Ceci est d'autant plus nécessaire que depuis janvier, le Mali traverse une crise politique et institutionnelle liée à une rébellion armée, à un coup d'État militaire et à des perturbations qui font que l'État, de plus en plus, est démuni pour venir en appui à ce type de processus de développement de la démocratie locale.
J'ai une dernière question, Mani Camara. Dans toutes les démarches que vous avez évoquées, vous ne soufflez pas mot du Canada, du gouvernement canadien. Pourtant, les deux sociétés qui font aujourd'hui l'exploration sont canadiennes. Vous n'avez pas tenté un recours auprès du gouvernement canadien ?
Non, pour l'instant, nous n'avons pas encore ces moyens. Nous savons que la législation canadienne est très laxiste pour les interventions des sociétés canadiennes en dehors du Canada, surtout dans nos pays. C'est un paradis juridique, en fait. Donc les sociétés se créent facilement, on ne connaît pas les montages financiers, elles peuvent se permettre tout. Donc ce serait intéressant. Mais surtout, nous pensons que si l'exploitation proprement dit devait avoir lieu, ce sera plutôt une société qui a une expertise solide, en l'occurrence Arriva, qui viendra derrière faire le travail.
Et pas une société canadienne.
Pas une société canadienne, parce que Rogate Capital Corp et Delta Exploration sont des sociétés récentes, bien connues, et n'ont aucune compétence dans l'extraction proprement dite de l'uranium. C'est seulement l'exploration et la prospection qu'elles ont eu à réaliser au Mali et ailleurs.
Voilà, vous pourrez réécouter cet entretien avec Mani Camara sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire et un lien vers le site Falea 21. Vous pouvez également nous téléphoner au 01 56 40 36 72 et même nous écrire à terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage Pierre Monteil, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous. Beta mai gira bagadi ge mboke bagade mboke nono kene bagade bagabedi joni ma mbodi kanu banyu maunde ma una suare ke una bambanyare suare ke iwo yo jati nebe jula ma bamma ko jula tamanya kanyi Ma gidi me jula daula kabo iwo yo jula nebe jula ma gajaga jula daula kabo iwo yo safo nebe jula ma gidi maga jula daula kabo iwo yo jula nebe jula ma moritani jula daula kabo iwo yo safo nebe jula ma jahunu jula daula kabo Iwoyo safo nebe jula ma karata jula daula kabo eye eye maribundo sigiri arila soye maribundo kanu yenga angeti la ke kanu yempeti kanu yenga kanu yempeti kanu yenga angeti Kanu yempeti kanu yenga, bute kanu yenyani kanu yenga, sondome kanu yenyani kanu yenga, maribundo kanu giri la rusinga o, hai maribundo.
Kumadonina Bejula wele kidi mejula uniula Bejula luwele gajaga jula uniula Bejula luwele kidi magajula uniula Bejula luwele lalao karata jula uniula jahunu jula uniula Moritani jula uniula Senegali jula uniula la Kanu yempeti kanu yenga o. Amina Tadamba, soy namusu, marigundo kanungi.